Imaginez un continent qui possède, à lui tout seul, genre 60% des terres arables inexploitées de la planète. Et pourtant, ce même continent dépense 35 milliards de dollars chaque année, juste pour acheter de la nourriture à l'extérieur.
35 milliards, ouais, c'est massif.
C'est un paradoxe absolu, enfin je veux dire, c'est complètement fou. Et pendant des décennies, face à ce genre d'anomalie structurelle, la réponse automatique, c'était d'attendre.
D'attendre une solution importée, c'est ça.
Voilà, sous forme d'aide ou de plans de développement qui étaient pensés dans des bureaux à l'autre bout du monde.
Ouais, totalement déconnecté de la réalité du terrain.
Exactement. Mais aujourd'hui, on va regarder de très très près une génération qui a, ben, en fait, qui a décidé de complètement réécrire ce code.
Et c'est ce chiffre sur l'agriculture qui résume à lui seul l'ancien logiciel.
Oui.
Ce vieux modèle d'un continent qui était défini par ses manques, parce qu'il n'avait pas plutôt que par ses capacités d'exécution, tu vois.
Absolument.
Mais ce qu'on observe actuellement, et c'est fascinant, c'est vraiment l'effondrement de ce modèle d'attente. On parle plus d'un potentiel lointain, on parle d'une restructuration immédiate, et surtout menée de l'intérieur.
D'accord. Décortiquons tout ça. Notre exploration en profondeur d'aujourd'hui, elle va se concentrer sur une trajectoire très précise. C'est l'Afrique à l'horizon 2036.
C'est demain, en fait.
C'est demain, ouais. Et on s'appuie sur une analyse hyper fouillée. C'est le numéro Image spéciale Afrique 2036.
C'est ça.
Un réseau panafricain qui s'appelle Epic Leaders.
Une très belle alliance, d'ailleurs.
Ouais. Et la mission de notre discussion aujourd'hui, c'est de comprendre par quel mécanisme, enfin par quel mécanisme vraiment concret, la génération Z africaine est en train de prendre les commandes.
Les commandes de son économie et de sa géopolitique.
Exactement. Et si vous nous écoutez en tant qu'investisseur ou analyste ou juste pour comprendre où pivote l'économie mondiale, bah c'est précisément ici qu'il faut prendre des notes.
C'est clair.
On n'est plus du tout dans le militantisme de jeunesse là. C'est la construction pure et dure d'une infrastructure de marché.
Ouais, et pour comprendre l'ampleur de cette bascule, il faut vraiment analyser les forces sous-jacentes. La source montre qu'on a trois ondes de choc simultanées en ce moment.
Trois ondes. Ok. La première, c'est quoi alors?
Bah, la première, c'est évidemment démographique. L'Afrique, c'est le continent le plus jeune du monde. Et ce n'est pas juste une statistique de recensement.
C'est une force vive, quoi.
C'est une masse critique. Ça modifie complètement la consommation et la production. Ensuite, on a l'infrastructure technologique.
Qui est arrivée à maturité, ouais.
Voilà. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, la dynamique économique locale. L'argent africain commence enfin à financer des solutions africaines.
Et ce qui m'a frappé dès les premières pages de notre source, c'est le, comment dire, le changement de boussole mentale.
Ah oui, le changement de logiciel, c'est flagrant.
Pendant hyper longtemps, l'ultime critère de réussite, c'était l'exode.
De faire ses valises, ouais.
C'est ça. On partait pour Paris, Londres, Montréal. Le cerveau fuyait vers le nord. Et aujourd'hui, on voit une génération qui identifie ses propres centres de gravité.
À Lagos, à Casablanca.
Ouais, Lagos, Casablanca, Kigali, Abidjan. Et je me demande, pourquoi ce basculement, il se produit exactement maintenant, pour cette génération-là spécifiquement?
Ben, c'est parce que leur rapport à l'espace physique et numérique a complètement muté.
Comment ça?
Ben, c'est la première génération qui est née avec un accès natif à l'Internet mobile.
Pour leurs parents, l'Europe, c'était la seule fenêtre vers l'économie globale.
Ouais, il fallait y aller physiquement.
Exactement. Mais pour cette Gen Z, l'économie globale, elle est dans leur poche.
Avec le smartphone.
Ah ouais, c'est ça. Le monde est sur leur écran.
Voilà. Et ce qui est fascinant ici, c'est que les frontières physiques entre les pays africains, elles restent super rigides.
Ah oui, les douanes, les visas.
Les visas, le manque de routes, tout ça. Mais l'espace numérique a complètement aboli la distance mentale.
Donc ça veut dire que, enfin, ils s'en fichent des frontières physiques.
En quelque sorte, oui, un développeur à Casablanca, il n'a pas besoin d'un visa pour cofonder une start-up avec une designeuse à Abidjan.
C'est fou. Ils contournent la géographie par le cloud.
Exactement. Ils travaillent ensemble comme s'ils étaient dans le même café.
C'est un peu comme si les générations précédentes voyaient l'Afrique comme une salle d'attente pour l'Occident.
C'est une bonne image.
Et là, la Gen Z, elle la voit comme la scène principale du festival, quoi.
C'est exactement ça.
Donc, la friction physique, elle existe toujours, mais ils ont créé cette fluidité virtuelle qui la rend presque obsolète.
Tout à fait.
Mais bon, avoir un état d'esprit collaboratif, ça suffit pas à transformer une économie de plusieurs milliards de dollars.
Non, c'est sûr. L'énergie s'instructure, ça s'évapore.
Voilà. Et c'est là qu'intervient l'infrastructure dont parle la source. notamment cette alliance entre Elodie G Media et Epic Leaders.
Ouais, et le document détaille bien ça. La création d'Epic Leaders, c'était en janvier 2025 au Maroc. Et les métriques de croissance, enfin, elles sont dingues.
Ah oui, vas-y, donne-nous les chiffres.
En seulement 18 mois, ils ont structuré 550 clubs.
550.
En un an et demi.
Ouais.
Ils ont rassemblé 50 000 membres avec une empreinte dans 34 pays africains.
Waouh.
34 pays, c'est énorme. C'est massif. Et de son côté, le DG Média modifie son propre modèle économique.
Ouais, ils veulent plus juste être un média classique.
C'est ça. Ils passent du statut d'observateur à celui d'animateur d'écosystème. Ils déploient des trucs comme Epic TV ou Epic Podcast.
Donc, ils fournissent en gros le canal de distribution pour cette nouvelle force de frappe.
Absolument. Et le fondateur d'Epic, le docteur Nizar Chahari, y pose une doctrine super claire dans le document. Il dit « on n'attend pas que l'Afrique change, on forme l'ingénierie humaine qui va la changer ».
Ok, alors là, laisse-moi faire l'avocat du diable une minute.
Vas-y.
Si on regarde l'histoire récente du continent, il y a eu, je ne sais pas, des milliers d'associations de jeunes créées.
C'est vrai, il y en a plein.
Et beaucoup finissent par être juste de vastes ONG. Elles font de belles photos, un nettoyage de plage, des belles promesses de leadership.
Ouais, et puis plus rien.
Voilà, ça s'éteint dès que les subventions disparaissent. En quoi l'architecture d'Epic est différente de cette fatigue chronique des ONG ?
C'est une objection super importante. Et la source y répond en détaillant leur méthode. Leur doctrine, c'est le « learning by doing », apprendre en faisant.
D'accord.
Epic, ça se structure pas du tout comme une organisation caritative. C'est vraiment un incubateur de compétences.
Basé sur quoi, Epic ?
Sur 5 piliers. Le leadership, l'entrepreneuriat, l'innovation technique, avec un gros focus sur l'intelligence artificielle d'ailleurs, l'impact social mesurable et le réseautage.
Ok, donc des choses très très pragmatiques.
Très pragmatiques. Sur le terrain, ça veut dire qu'ils ne se réunissent pas pour débattre de la pauvreté. Ils se réunissent pour coder des solutions, pour structurer des plans d'affaires.
Ah, ça change tout.
Ouais. La source mentionne des coordinateurs, par exemple Walid au Maroc ou Dia en Tunisie, et ils quadrillent le terrain physiquement et numériquement.
Pour faire quoi exactement ?
Pour ancrer cette méthode entrepreneuriale directement dans les campus. Et le truc clé, c'est qu'ils ne demandent pas de financement pour exister, ils créent des micro-économies.
Je vois. Donc, au lieu de faire de la sensibilisation passive, ils construisent des chaînes de valeur.
C'est le mot exact.
Et pour rendre ça plus concret, la source s'attarde pas mal sur la cérémonie des Epic 100.
Ah oui, au Palace Jawara.
À Rabat, en janvier 2026. Ils ont sélectionné 100 lauréats sur 5000 candidatures, je crois.
C'est ça, avec une moyenne d'âge de 23 ans.
23 ans. Et ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est que ce prix, c'est pas conçu comme un trophée honorifique à mettre sur une étagère pour flatter les égos.
Ah non, pas du tout. Le document insiste là-dessus. C'est défini comme un mandat opérationnel.
Un mandat, ok.
Ces 100 profils, ils deviennent des nœuds, en fait, au sein du réseau panafricain. Ils ont carrément l'obligation d'utiliser ce label pour accélérer leurs projets sur le terrain.
Alors regardons la mécanique de ces projets, parce que les profils de la source illustrent parfaitement comment ils opèrent.
Ouais, les exemples sont géniaux.
Prenons Yvette Jolivia Kemebune Kambe. Elle est gabonaise, elle a 20 ans.
20 ans, mm-hmm.
Elle étudie le droit des affaires à Casablanca, et en parallèle, elle a monté un service de personnel shopper à l'international.
C'est ça.
Mais quand on y pense d'un point de vue logistique, comment une étudiante de 20 ans gère les flux financiers et douaniers, qui sont hyper complexes, entre l'Afrique centrale et le Maghreb ?
Bah, en fait, elle utilise précisément ses inefficacités du marché comme modèle d'affaires.
Comment ça ?
Là où les grandes chaînes de distribution traditionnelles, elles, se cassent les dents à cause de la fragmentation des marchés, elle déploie des réseaux informels numérisés.
D'accord.
Elle connecte la demande d'une classe moyenne émergente au Gabon directement avec les plateformes de commerce au Maroc.
C'est passionnant. Donc, l'inefficacité douanière, ça devient son avantage concurrentiel.
Exactement. C'est l'agilité numérique qui vient compenser la lourdeur des infrastructures physiques.
Waouh. Il y a un autre exemple détaillé par la source. C'est Moussa Aladouma Amadou.
Du Niger.
Du Niger, voilà. À 25 ans, il a formé 160 jeunes au leadership et à la démocratie participative.
Ouais. Un très beau projet.
Mais dans un contexte régional au Sahel, où les institutions politiques peuvent être, disons, extrêmement volatiles. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur le terrain, la démocratie participative ?
Ça veut dire qu'ils descendent au niveau micro-local. La démocratie participative là-bas, c'est pas faire de grands discours sur la Constitution.
C'est quoi alors ?
C'est apprendre aux jeunes à s'organiser, tu vois, pour gérer les ressources d'un quartier ou pour arbitrer des conflits locaux.
Ah ouais, des trucs du quotidien.
Ou même auditer les petits budgets de la mairie. C'est vraiment de l'ingénierie sociale de base.
C'est du concret.
Et de la même manière, la source parle de Kilosho Gaspard en RDC.
Ouais, il a 30 ans lui, c'est ça ?
Oui. Il a structuré des programmes qui ont touché plus de 3000 jeunes sur la citoyenneté et l'environnement.
3000 jeunes dans un pays immense comme la RDC.
Exactement. Dans des zones aussi géantes et complexes, ces réseaux pallient souvent l'absence de l'État dans l'éducation citoyenne.
Bon, là je dois m'arrêter ici parce que, en analysant les données de cette promotion de 100 leaders, il y a un chiffre qui saute aux yeux dans le document. Et honnêtement qui pose problème.
Lequel ?
Le ratio homme-femme.
Ouais.
La promotion, elle est composée à 70% d'hommes et 30% de femmes. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si on parle d'une génération qui prétend réécrire le code d'un continent, perpétuer un tel déséquilibre, c'est pas juste une faille.
C'est reproduire les erreurs du passé.
Totalement. Comment la source justifie ça ? Est-ce qu'ils essaient de le cacher ?
Non, pas du tout. L'analyse de la source est très très clinique sur ce point. Le document n'essaie absolument pas de camoufler ce déséquilibre.
Ok.
Il qualifie ce ratio de 30% de, je cite, « perfectible ».
Perfectible ? C'est un mot poli ?
Oui, mais ce qui est révélateur de la mentalité de cette génération, c'est la façon dont ils traitent le problème.
Qu'est-ce qu'ils font ?
Plutôt que de publier de simples excuses ou des beaux discours, ils ont traité cette donnée comme un bug, une anomalie dans leur système.
Un bug qu'il faut corriger.
Qu'il faut corriger par une nouvelle infrastructure, oui. Et c'est la raison exacte du lancement de leur programme spécifique, Epic Air.
Epic Air, ok.
Un programme prévu pour mars 2026, dédié à l'entrepreneuriat féminin.
C'est une approche presque, algorithmique ?
C'est ça.
On déploie le programme, on identifie un bug majeur, la sous-représentation féminine dans le pipeline, et bam, on lance un patch structurel pour le corriger.
C'est du pragmatisme pur ?
C'est hyper pragmatique. Et ce pragmatisme, on le retrouve quand on observe comment il s'attaque aux problèmes macroéconomiques.
Oui.
Ce qui nous ramène aux chiffres vertigineux du début de notre discussion. Les 35 milliards de dollars d'importations alimentaires...
Ah oui, sur un continent qui a 60% des terres arables inexploitées, c'est fou.
Comment la source explique ce dysfonctionnement de base ? Pourquoi ils n'arrivent pas à se nourrir eux-mêmes ?
Eh bien, la cause de ce paradoxe, elle est multifactorielle. D'abord, un manque flagrant d'infrastructures de transformation.
Ok, on produit, mais on ne transforme pas.
Exactement. Ensuite, des supply chains qui sont défaillantes et un gros déficit en intrants agricoles.
Les fertilisants, ce genre de trucs, ouais.
Oui, des fertilisants adaptés au sol. Et surtout, surtout, un fonctionnement en silo.
En silo. C'est-à-dire ?
Historiquement, les pays africains commerçaient avec l'Europe ou l'Asie, mais très très peu entre eux.
Ah ouais.
Le marché intra-africain de l'agriculture, il était quasiment inexistant. Et c'est ce dysfonctionnement précis qui a été décortiqué lors du 4e symposium ASU-Weldios.
Qui a eu lieu à Rabat, c'est ça. Co-organisé avec Epic Leaders.
Exactement.
Et ce qui s'est passé à ce symposium, la source dit que ça marque une vraie rupture de méthode.
Ah oui, une rupture totale.
Parce que d'ordinaire, dans ce genre de sommet, t'as des ministres, des experts de 60 ans qui font des grands monologues sur la sécurité alimentaire.
Et les jeunes sont juste là pour écouter.
Voilà, les étudiants sont dans le public pour faire de la figuration. Mais là, la donne a changé.
Absolument. La source montre que des leaders de la jeunesse étudiante, comme Osisiogu Osikeni Enyanaya ou Aruna Dumbuya de Sierra Leone, ils ont pris place à la table décisionnelle.
À côté des officiels.
Oui, à côté des experts seniors comme le docteur Darlington Hugo Ita. Ils se sont pas contentés d'écouter. Ils ont coécrit la feuille de route officielle sur la souveraineté alimentaire.
Ok, mais bon. Une feuille de route, au final, c'est que du papier.
C'est vrai.
Quels sont les mécanismes réels qu'ils proposent pour arrêter d'importer ces 35 milliards de nourriture ?
Le mécanisme central, c'est la mutualisation continentale.
C'est-à-dire ?
Plutôt que de voir chaque pays, tu sais, essayer de bâtir son agriculture souveraine de son côté, tout seul dans son coin.
Ouais.
Ils pensent en termes de chaîne de valeur partagée. Par exemple, si un pays a d'immenses ressources en eau, mais pas de technologie pour les sols... Et qu'un autre pays a la technologie, mais des terres super arides. La souveraineté, elle ne peut être que régionale ou continentale.
Si je comprends bien, au lieu d'une approche compétitive entre voisins, on est sur une chaîne d'approvisionnement collaborative.
C'est ça l'idée.
C'est un peu comme s'il créait un système immunitaire partagé pour l'agriculture.
Oh, j'aime beaucoup cette image.
Tu vois, une résistance au choc climatique qui serait développée par l'agritech au Maroc et, Bam, elle est immédiatement transférée pour protéger les cultures au Sénégal ou en Sierra Leone.
C'est exactement la métaphore qu'il faut. Et c'est pour ça que le document positionne le Maroc comme le hub de l'agritech africain.
C'est pas juste un mot à la mode, ce hub.
Non, non, c'est pas un slogan diplomatique. C'est basé sur des actifs industriels lourds.
Les phosphates, j'imagine.
Exactement. Le Maroc contrôle une part massive des réserves mondiales de phosphates qui sont la base des fertilisants.
D'accord.
Mais surtout, le Maroc a développé la capacité de cartographier les sols africains.
Ah oui, la source mentionne ça.
Pour fournir des engrais sur mesure qui sont adaptés chimiquement aux terres très spécifiques de chaque pays.
Donc c'est pas le même engrais partout.
Non, c'est du sur mesure. Et tu ajoutes à ça une infrastructure portuaire et logistique capable de desservir l'Afrique subsaharienne et tu obtiens le moteur physique de cette souveraineté.
Une souveraineté alimentaire pensée et organisée par les jeunes. C'est un peu comme s'ils décidaient de hacker le système d'exploitation agricole du continent. On arrête les silos, on connecte les cerveaux en open source.
C'est exactement la démarche.
Donc, on a des jeunes qui utilisent le numérique pour se connecter, qui appliquent une méthode entrepreneuriale hyper rigoureuse et qui s'appuient sur des infrastructures physiques lourdes, comme celle du Maroc, pour régler des problèmes urgents comme la faim.
Ouais, c'est puissant.
Et si on dézoome un instant ? L'addition de toutes ces actions locales, ça finit par créer une nouvelle dynamique géopolitique globale.
Oui, si on relie tout ça à une vision plus globale, la source parle de l'émergence d'un soft power endogène.
Endogène, donc qui vient de l'intérieur. Parce que pendant un demi-siècle, la gestion de crise en Afrique, ça dépendait toujours d'un soft power importé du Nord, non ?
Totalement. C'était les ONG occidentales, les grandes institutions ou les anciennes puissances coloniales qui dictaient un peu la marche à suivre.
C'est clair.
Ce qu'on lit ici dans ce rapport, c'est l'appropriation de cette puissance par les Africains eux-mêmes.
C'est un pouvoir d'influence qui est décomplexé.
Ils n'ont plus besoin de la validation de Paris ou de Londres.
Exactement. Ils ne sont plus en réaction par rapport au Nord, ils sont en construction interne.
Ce qui m'amène à ce concept de nexus qui est mentionné dans le document.
Ah oui, très important ce nexus. Parce qu'historiquement, le désert du Sahara, ça a souvent fonctionné comme un mur. Un mur diplomatique et même psychologique entre les pays du Maghreb au nord et l'Afrique subsaharienne au sud.
Des barrières invisibles.
Voilà. Il y avait de la méfiance, des tensions politiques souvent super lourdes. Comment cette jeunesse, elle parvient à contourner ce mur air ?
Ben en fait, ils utilisent la diplomatie citoyenne et économique pour contourner les blocages des États.
Donc sans passer par les gouvernements.
Voilà. Le document met en avant des sommets, comme celui organisé à Monastir en Tunisie ou celui prévu à Dakhla au Maroc.
D'accord.
Ces événements, ils rassemblent des milliers de délégués qui viennent de dizaines de pays africains.
Donc ils se rencontrent physiquement quand même ?
Oui. Et quand la diplomatie traditionnelle, tu sais, s'enlise dans des querelles de frontières ou des vieilles idéologies, ces jeunes entrepreneurs, eux, ils avancent.
Ils font quoi pendant ces sommets ?
Ils créent des co-entreprises, ils signent des partenariats universitaires, ils structurent des réseaux de distribution.
C'est fou.
Ils tissent la vraie coopération sud-sud, mais par le bas. Et ça rend les frictions politiques des États de moins en moins pertinentes pour l'économie réelle.
C'est vraiment le triomphe de la réalité du terrain sur la bureaucratie, quoi.
Absolument.
Alors, pour notre auditeur, tu sais, l'apprenant qui nous écoute aujourd'hui, qui se demande peut-être c'est quoi l'impact de tout ça sur mon propre secteur.
Eh bien, le message est limpide. La bataille mondiale des talents a commencé.
Elle est déjà en cours, hein.
Des ressources, de l'innovation. Et l'épicentre est en train de se déplacer.
C'est clair que si on continue d'analyser l'Afrique à travers les vieilles grilles de lecture des années 90, ben on rate complètement l'émergence du plus grand marché collaboratif du siècle.
Ces jeunes, ils ne préparent pas l'avenir, ils l'exécutent au présent.
C'est une super formule. Et d'ailleurs, pour clore cette analyse, il y a un élément dans la source qui pousse à une réflexion encore plus, plus radicale.
Oui, il y a un frein majeur qui est identifié.
Lequel ?
Le texte montre clairement que le grand obstacle à cette intégration, c'est la mobilité physique.
Ah oui, les visas et tout ça.
C'est ça. Le document mentionne que les États doivent faciliter cette mobilité. Parce que parfois, il faut plus de temps et c'est beaucoup plus cher d'obtenir des visas et des vols pour voyager entre deux capitales africaines que pour aller en Europe.
C'est une aberration absolue pour une génération qui est habituée à la vitesse de la fibre optique, quoi.
Précisément. Et ce constat soulève une pensée, une réflexion hyper provocatrice.
Vas-y.
Elle n'est pas explicite dans le texte, mais c'est la suite logique de tout ce qu'on vient de dire.
D'accord.
Et si cette génération Z, face aux lenteurs politiques, décidait purement et simplement de cesser d'attendre l'ouverture des frontières physiques ?
Comment ils feraient ça ?
Bah, avec leur maîtrise de l'intelligence artificielle, des blockchains, des métavers professionnels, que se passera-t-il le jour où ils créeront une zone de libre-échange continentale numérique ?
Waouh !
Une zone totalement parallèle.
Attends, donc tu veux dire un écosystème financier et professionnel complet qui serait hébergé uniquement dans le cloud.
C'est ça.
Les régulations bureaucratiques des États SIC.
Exactement. Une Afrique qui atteindrait son unité et son efficacité économique, virtuellement d'abord.
Et ensuite ?
Et ensuite, ça forcerait les infrastructures physiques et politiques à s'aligner sur cette nouvelle réalité.
L'État-nation classique, avec ses douaniers et ses tampons, complètement contourné par un réseau panafricain décentralisé.
C'est une perspective dingue, non ?
C'est... Franchement, c'est fascinant. Et ça nous ramène en plein dans notre point de départ.
La carte n'est plus figée.
La carte n'est plus figée et elle n'est même plus totalement physique. Elle est redessinée chaque seconde par les connexions de millions de jeunes esprits qui collaborent.
De quoi y réfléchir très sérieusement.
C'est assurément un concept sur lequel nous devrons tous méditer, qu'on soit dans la tech, l'investissement ou la politique. Merci beaucoup d'avoir suivi avec nous cette exploration en profondeur des dynamiques qui façonneront l'Afrique de 2036.
Merci à tous.
Gardez l'esprit ouvert, remettez en question vos cartes et à très bientôt pour décortiquer ensemble les idées qui transforment notre monde.